Voilà, chers amis, merci d'être venus si nombreux. Les petits ruisseaux font un jour les grandes rivières et c'est ainsi que démarre cette Université populaire des religions avec à chaque fois des reprises, alors soit à la maison du protestantisme, soit ici à l'université, soit nous l'espérons dans d'autres lieux, et notamment la maison diocésaine de Nîmes, et puis la mosquée centre-ville, donc près de la gare, dans laquelle nous sommes attendus aussi pour d'autres séances à venir dans les mois qui viennent, donc je pense au courant 2026. Et puis évidemment au centre communautaire israélite où nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer en conseil d'administration. Donc les quatre lieux principaux des confessions concernées par l'Université populaire des religions sont disponibles et accueillants, j'en suis témoin. Et aujourd'hui, donc, c'est le troisième cours sur les institutions religieuses en France, après que j'ai commencé sur la Fédération protestante de France et le protestantisme français. Ceux qui étaient là se souviennent des quelques dates clés que nous allons retrouver, évidemment aussi pour ce qui concerne l'islam. Quelques personnalités aussi qui ont marqué les institutions protestantes dans leur lien avec les autorités. La dernière fois, j'ai aussi évoqué les institutions du judaïsme français avec des dates un tout petit peu différentes, puisque le consistoire israélite est créé par Napoléon, donc on est avant 1905, on est en 1808, et le CRIF qui naît pendant la guerre, donc en 43-44, issu des mouvements de résistance du judaïsme français. Donc consistoire, CRIF, et puis évidemment l'ensemble des instituts de formation que l'on trouve ici et là. Et ce sera d'ailleurs l'un des enjeux forts du sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc concernant les institutions musulmanes en France, puisque comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, la question vive qui apparaît depuis maintenant une quarantaine d'années dans le pays est celle de la formation des cadres. Un peu à l'image de ce qu'a vécu le protestantisme au milieu du XIXe siècle, où il y avait quelques instituts, il y avait la faculté de Montauban, il y avait donc, j'allais dire, à l'occasion de la défaite de Sedan, la création de la faculté de théologie de Paris, qui a été une forme de réparation hein, par la République, à la fois de la perte de l'Alsace-Lorraine et de l'exil provisoire de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui appartenait donc à l'Empire. Et c'est Jules Ferry qui inaugure l'Institut protestant de théologie boulevard Arago, pour vous dire comment la laïcité, à une époque charnière, était d'une ouverture incroyable, au point que le discours de ce ministre est tout à fait mémorable et à retenir. Si vous avez l'occasion de le lire, reportez-vous à cette prise de parole qui indique comment la science théologique est assumée, au fond, dans l'ensemble des sciences enseignées dans l'université en France à l'époque. Alors évidemment, on est à la fin du 19e, il va arriver tout le débat sur la séparation des églises et de l'État, et évidemment, après la séparation des églises et de l'État, le lien sera tout à fait différent. Mais en même temps, il faut le reconnaître, grâce à partir des années 20, au retour de l'Alsace-Moselle dans la République, la faculté de théologie de Strasbourg reprendra une importance qu'elle n'avait plus, puisqu'elle était tournée vers l'Allemagne plus que vers la France, et la formation des cadres dans le protestantisme se fera donc non seulement à la faculté de Paris, mais aussi à la faculté de Strasbourg. Donc voilà pour vous dire que le protestantisme lui-même a eu des difficultés pour organiser cette formation des cadres, dans la mesure où le système protestant place symboliquement l'autorité moins dans le sacerdoce, enfin dans l'épiscopat, que dans le doctorat, Et donc les pasteurs sont formés évidemment à un niveau assez, assez élevé, à un niveau universitaire, et cela exige évidemment des instituts ad hoc. La situation est toute différente pour le judaïsme, pour le catholicisme, et on va le voir maintenant pour l'islam. Pour le catholicisme, donc, ce sont les séminaires qui ont toujours existé, avec des formations au long cours, mais généralement qui ne vont pas jusqu'à un niveau universitaire. Les rabbins sont formés dans des lieux d'enseignement, mais qui là aussi n'ont pas un niveau universitaire, sauf lorsque ces lieux d'enseignement sont adossés à une université, comme c'est le cas en Israël. Mais là, vous voyez qu'on est déjà dans la moitié du XXe siècle, à partir des années 50-60. Et puis, alors, pour les musulmans, évidemment, la question se pose. Alors j'aimerais commencer mon propos avec un petit rappel historique qui permet de cadrer ce qu'est au fond l'islam dans notre pays, sachant qu'il y a un certain nombre de préjugés ou de visions préconçues qui ne correspondent pas tout à fait à ce que l'on peut en dire a priori. L'organisation du culte musulman en France s'inscrit donc dans une dynamique politique unique, articulée autour du rôle central du ministère de l'Intérieur. Et il faut le rappeler parce que cela vaut, j'allais dire, non pas seulement aujourd'hui, mais cela vaut pour les débuts de l'organisation de l'islam en France. La diversité interne de l'islam a obligé, au fond, d'une certaine manière, à ce que les autorités prennent en main cette organisation, sachant que les appartenances nationales et les différentes confessions internes, ou les différents courants confessionnels internes à l'islam, n'ont pas été gérées de la même façon, par exemple, que la diversité protestante qui existe bel et bien, mais qui n'a pas cet arrière-plan national. Vous savez que le protestantisme est français, même s'il est traversé par des courants venus en particulier d'Allemagne et de Suisse. Mais voilà, les différents courants du protestantisme sont des courants internes à un protestantisme français. Il y a des conservateurs, des gens un peu moins conservateurs, des libéraux, des évangéliques, des pentecôtistes, des baptistes, etc. Enfin, il y a toute une gamme que vous connaissez peut-être, et puis qui va même au plan confessionnel se traduire par des différences ecclésiales. Je pense au fait que le protestantisme français, comme je l'ai dit la dernière fois, est principalement évangélique, mais qu'il y a évidemment une bonne partie luthérienne et réformée, en Alsace notamment, une partie réformée à l'intérieur, de ce qu'on dit la France de l'intérieur, et puis donc des églises évangéliques, pentecôtistes, diverses et variées. Et j'avais rappelé Cum Grano Salis, le nom de la principale église de la Fédération protestante de France, Vie et Lumière, la plus nombreuse, la plus dynamique, et qui est donc l'église tzigane. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui étonne un peu, sachant que la deuxième église est l'église luthérienne d'Alsace-Moselle. Voilà, donc, pour vous dire que cette diversité-là a été gérée, au fond, grâce au travail des principaux présidents et secrétaires généraux des églises pour le protestantisme, afin d'aboutir à cette création de la fédération en 1905. Ça n'a pas été le cas, évidemment, pour l'islam. Depuis les années 80, la structuration du culte musulman relève donc d'une série d'expérimentations, pourrait-on dire, et non pas tellement d'une volonté articulée, concertée, collégiale. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui relève d'une série d'expérimentations institutionnelles où le ministère de l'Intérieur, et en particulier le bureau central des cultes, devient l'acteur principal. La question, évidemment, qui est posée, comme cette question avait été posée, vous vous en souvenez, pour le judaïsme et pour le protestantisme, c'est qui est l'interlocuteur, comment dialoguer avec un culte sans hiérarchie centrale, et donc quelle modalité de dialogue peut se mettre en place pour que ce dialogue précisément soit vertueux. Et l'État, comme vous le savez maintenant, en vertu de la loi de 1905, ne reconnaît au sens institutionnel du terme aucun culte. Cette précision concernant le verbe reconnaître est très importante, puisque du Concordat jusqu'à 1905, l'État gérait les cultes reconnus. C'est un mot qui est juridiquement stabilisé pendant pratiquement un siècle. L'État reconnaît les cultes, il reconnaît en France quatre cultes, hein, le culte catholique, le culte israélite, le culte réformé et le culte luthérien. Ces quatre cultes reconnus vivront dans une relation, alors non pas d'osmose, n'exagérons rien, mais enfin de liens très rapprochés avec les autorités. À partir de 1905, la loi l'indique dans son premier article, la République ne reconnaît aucun culte. C'est une rupture franche, nette, et c'est pas par hasard que ce verbe est employé dès le début de la loi de 1905. Comment dialoguer donc avec un culte sans hiérarchie centrale, dans la mesure où la République ne reconnaît aucun culte officiel? Eh bien, il faut donc créer des espaces d'échange, des lieux de rencontre avec les responsables musulmans. Alors, il y a déjà, vous le savez, en France, un lieu par excellence qui est un lieu de rencontre, un lieu tout à fait remarquable, c'est la Grande Mosquée de Paris, qui a été mise en œuvre dès les années 20, et même, oui, c'est ça, dès les années 20, à l'occasion d'un acte de reconnaissance de la République pour l'engagement des musulmans issus des pays d'Afrique du Nord dans le cadre de la Première Guerre mondiale, hein, donc de 14-18. Et quand vous vous déplacez dans la mosquée de Paris, vous voyez, ces choses-là sont marquées. Enfin, y a, vraiment, c'est tout à fait inscrit dans l'histoire même de la création de cette grande mosquée de Paris que cette reconnaissance de la République à l'égard du sacrifice des enfants de la patrie, ou non, puisqu'ils n'avaient pas tous la nationalité française, loin de là, à l'occasion du premier conflit mondial. Cette mosquée d'architecture marocaine est en réalité créée à partir des Habous, donc, qui est un système juridique algérien. C'est au fond une espèce de ministère des affaires culturelles géré quand la France était présente donc en Algérie et avant la loi 1905. Mais là, la loi 1905 interdit à l'État, puisqu'il ne reconnaît aucun culte, de financer une mosquée. Et donc l'État s'engage dans une souscription et la loi est contournée, j'allais dire de manière élégante, puisque la mosquée n'est pas seulement une mosquée, mais c'est aussi un institut. Donc c'est la mosquée-institut qui est créée à ce moment-là. Donc elle est inaugurée en 1926. Et évidemment, les différents recteurs seront des Algériens, puisque par capillarité, enfin, tout s'est traité, tout s'est fabriqué, au fond, entre l'Algérie, le département d'Alger, le gouvernement français en Algérie et la République. Et ça n'est pas sans poser de questions, puisque précisément cette grande mosquée est perçue par l'ensemble des Français aujourd'hui comme une mosquée algérienne, ce qu'elle n'est théoriquement pas. Elle est théoriquement la mosquée pour justement tous les musulmans qui ont œuvré par le sacrifice de leur vie pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'est ainsi, les musulmans devront s'organiser non seulement autour de la Grande Mosquée, pour ce qui est de l'Algérie, mais aussi autour d'autres associations pour ceux qui sont d'origine marocaine ou tunisienne. Vous comprenez que la chose est très importante parce que les recteurs successifs vont être les interlocuteurs naturels pour le gouvernement sans être les interlocuteurs officiels. Enfin, comment le dire ? Ils sont les interlocuteurs naturels parce que les plus représentatifs là, dans le territoire français, mais en même temps, sans avoir une légitimité demandée et acceptée par les autres musulmans des autres nations présentes dans le pays. Ce qui, encore aujourd'hui, d'ailleurs, crée des tensions. Alors, nous allons aux années 80-90, parce que c'est à ce moment-là que la présence de l'islam en France est perçue de manière générale comme une véritable nouveauté sociologique, sociopolitique, socio-économique, socioculturelle et socio-religieuse. Il faut dire que, vous vous en souvenez quand je parlais du judaïsme, les années 60 ont été un moment clé puisque c'est l'arrivée en France de beaucoup de juifs séfarades d'Afrique du Nord et qui va changer la donne à la fois en interne de la communauté juive mais aussi de la nation française. Et bien de la même façon, la conscience nationale de cette présence massive des musulmans en France se fait jour globalement dans les années 80. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de cette conscience, mais elle était beaucoup moins aiguë et elle était liée surtout au fait de la migration de travail issue des grands chantiers d'après-guerre où la France s'est reconstruite, hein, où les infrastructures de la France ont été reconstruites avec évidemment un apport considérable de main-d'œuvre, notamment une main-d'œuvre venant d'Afrique du Nord. Mais pas que, puisqu'il y avait beaucoup d'autres immigrés qui ont aider à la reconstruction du pays. Et donc ce lien, au fond, entre reconstruction de la France après la guerre et islam n'était pas aussi évident que ça. Il le devient dans les années 80, quand justement là, voilà, le temps est venu de prendre conscience de cette réalité de l'islam sur tous ces secteurs que j'évoquais, donc social, culturel, religieux, politique, avec enfin des revendications religieuses locales et des premières controverses publiques, notamment concernant le voile, concernant la construction de mosquées aussi, et puis concernant l'accord par des municipalités, c'est quelque chose qui va vous parler à Nîmes, de carrés dans les cimetières municipaux, qu'on appelle à tort donc des carrés musulmans, ou des voilà, ce sont des carrés de cimetières qui sont municipaux, donc c'est un terrain tout à fait laïque, mais que l'on réserve prioritairement pour la sépulture de personnes de confession musulmane. Comme il y a des carrés juifs qui sont des terres tout à fait civiles, communales, mais qu'on consacre plus particulièrement à la communauté juive. À la différence des cimetières par exemple protestants, je pense à ceux-là, qui sont très rares, qui sont rares, en tout cas pas aussi nombreux qu'on peut le croire, mais qui eux sont exclusivement réservés aux enterrements de personnes protestantes.
En Alsace, dans les cimetières, les deux, protestants et catholiques.
Oui, mais ce sont des cimetières communaux.
Oui, mais il y a des villages, il y a des cimetières juifs à côté.
Oui, alors ça c'est autre chose. Il peut y avoir des cimetières juifs, donc ils appartiennent à la communauté juive, mais les cimetières communaux en Alsace peuvent être catholiques et protestants, comme ils le sont en France, voilà, d'un côté et de l'autre, et on distingue les tombes d'ailleurs assez facilement, etc. Donc c'est important de dire que ces années 80 sont les années où vraiment quelque chose advient dans la société qui est de l'ordre de la prise de conscience qu'il faut faire quelque chose pour tenir compte au fond de cette structuration en devenir de la communauté musulmane. Alors quand on dit communauté, évidemment, on prend un risque. On prend un risque parce que ce terme de communauté, vous le savez, peut prêter à confusion On peut parler par exemple de communauté juive, mais tous les juifs ne se retrouvent pas dans ce terme de communauté. Ceux qui se déclarent athées ou ceux qui ne veulent pas en faire partie, voilà, contestent cette appellation. De la même façon, peut-on parler de communauté protestante ? J'entends déjà beaucoup de protestants dire « Mais non, nous ne sommes pas une communauté, nous sommes des citoyens français avec chacun une appartenance ecclésiale particulière, etc. » Et donc, effectivement, c'est pas simple de parler de communauté musulmane, parce qu'en plus, il y a différentes associations représentatives de l'islam en France qui ont chacune leur spécificité. Il n'y a pas d'instance nationale qui représenterait l'ensemble de l'islam français. Alors, c'est à partir donc de ces années 80 que les choses se mettent en place. Il va y avoir des interventions de différents ministres, et je pense en particulier la première tentative du ministre, alors ça n'est peut-être pas un hasard, protestant, Pierre Jox, qui va créer le CORIF et qui marque la première tentative formelle de structuration de l'islam. Alors, ce CORIF n'a pas de légitimité élective, mais il propose un cadre inédit permettant au ministère d'aborder ces fameuses questions pratiques, concrètes, rituelles, funéraires, administratives, sociales, liées à l'islam. Mais évidemment, au cours des ans, cette absence de représentativité affaiblit le Conseil et affaiblit aussi l'impact de ces décisions. Ensuite, ce sont les consultations de Jean-Pierre Chevènement qui vont suivre de 97 à 2000, qui va proposer un modèle nouveau fondé sur une concertation entre mosquées. Alors là, on va donc, si vous voulez, avoir une vision plus nationale, plus géographique, plus large de l'ensemble de l'islam, avec des fédérations de mosquées. Et puis des interlocuteurs symboles, enfin des personnalités, des intellectuels musulmans, pas forcément des imams, mais des personnalités musulmanes qui comptent. Et on jette avec ce projet les bases de ce qui va devenir le Conseil français du culte musulman en 2003. Le Conseil français du culte musulman constitue une étape majeure parce qu'il devient l'interlocuteur officiel de l'État. Alors, le mot officiel est encore à prendre avec précaution parce que la République ne reconnaît aucun culte et donc il n'y a pas de reconnaissance officielle. Il y a donc une instance de dialogue, une instance de dialogue possible. Ces représentativités à la fois du CORIF et du CFCM sont mises en cause par le fait de tensions internes. Des fédérations de mosquées sont en rivalité. Je pense au Rassemblement des mosquées de France qui rassemble les mosquées marocaines particulièrement, la mosquée de Paris, d'autre part, avec l'Algérie, les mosquées venues des îles, hein, donc qui représentent l'islam ilien, enfin, des Antilles, etc., comorien. Et puis l'islam subsaharien, l'islam donc des Maliens, des Sénégalais, etc., des Camerounais. Et donc on est là devant une mosaïque. Alors le mot mosaïque est justifié pour le coup, une mosaïque de mosquées, mais avec un débat interne très violent. Et là encore, ces rivalités vont évidemment affaiblir la représentativité du CFCM au point que Gérard Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, prendra la décision de manière symbolique et forte et pas très élégante, il faut bien le dire, de ne plus reconnaître le CFCM. J'étais là témoin de ce moment charnière et c'est vrai que la chose a été très mal vécue par les représentants du CFCM à cette époque-là, et notamment M. Mohamed Moussaoui, dont certains connaissent le nom, qui est professeur d'université à Avignon et qui, lui, pour le coup, représentait les mosquées marocaines, mais qui était le président du CFCM. On est là devant donc un enjeu très très fort à la fois de tension interne et de représentation devant l'État. Mais vous comprenez que dans ces années-là, nous vivons aussi en France un moment difficile. 2015, c'est aussi le moment des attentats. C'est le moment aussi de la résurgence de ce qu'on va appeler le frérisme, hein, donc une espèce de mouvement de réaffirmation convictionnelle religieuse, d'un projet islamiste anti-républicain et violent, donc c'est le projet de l'islam radical, qui vient de différents pays qu'on peut citer, mais enfin dont vous connaissez l'histoire, mais qui est aussi un mouvement qui se nourrit sur le territoire français, enfin, qui était à la fois nourri par des projets venus de l'extérieur et en même temps par des réflexions identitaires extrêmement violentes, agressives contre la République, venant de membres du culte musulman. Et évidemment, les membres reconnus qui sont interlocuteurs des autorités de la République sont tout à fait perturbés, enfin pris en tenaille, au fond, entre le désir de normaliser les relations et la nécessité de se démarquer de manière claire de ces projets anti-républicains violents de l'extrémisme musulman ou de la radicalité musulmane. C'est donc en traversant cette époque-là, des années 2015 jusqu'aux années 2020, que naît petit à petit l'idée de créer donc une nouvelle structure qui sera donc la troisième, hein, après le CORIF, le CFCM, le FORIF, donc le Forum de l'Islam de France, qui apparaît en 2021 et qui apparaît ici comme une réponse à l'essoufflement du CFCM. Donc le FORIF est présenté à l'époque par un Premier ministre qui s'appelle Castex, peut-être en mémoire. Et je me souviens, c'est une petite incise que je fais, mais je me souviens que lorsqu'il nous en avait parlé à l'occasion de vœux, ce devait être les vœux de 2021, nous avions eu un début de conversation sur ce projet qui apparemment va prospérer, on en parlera tout à l'heure. Mais j'avais quand même soulevé la question en disant, lorsqu'on parle de forum, l'on ne parle pas exactement d'association ni d'institution décisionnaire. Lorsqu'on parle de forum, on parle de lieu de débat, de concertation, de discussion, mais non pas de représentation au sens formel du terme et donc de décision. Au fond, le forif n'est pas exactement un synode à la manière protestante, ou un consistoire à la manière des juifs, ou une fédération à la manière du protestantisme au plan national, ni même une conférence des évêques à la manière catholique. On y reviendra d'ailleurs parce que ce sera la dernière séance, si je peux dire, sur l'Église catholique, où l'on verra que l'Église catholique a eu beaucoup de mal et a toujours beaucoup de mal à s'organiser sur ce plan-là. Rien n'est réglé. Rien n'est réglé puisque le pape a refusé, comme je l'avais expliqué dès la première rencontre, la loi de 1905. Et donc, il n'y a pas d'instance nationale de l'Église catholique en France. On pourrait dire, au plan juridique, l'Église catholique en France n'existe pas. Voilà. Et donc, vous voyez que chaque culte, au fond, a ses trajectoires, à ses histoires, à ses avantages aussi dans son rapport à la République, mais aussi à ses errements ou ses difficultés. Et on y reviendra donc lors de la dernière séance sur la conférence des évêques de France. Le FORIF est donc un lieu de débat, d'élaboration d'un certain nombre de questions. Là encore, le ministère de l'Intérieur et le Bureau central des cultes est tout à fait engagé. Mais ce sont les préfets qui nomment les membres du FORIF. Donc on est quand même, là encore, dans une vision très verticale, j'allais dire, très républicaine, dans le sens verticale quoi, de la chose. C'est Paris qui décide ce qui va se passer. Alors, les personnes qui sont nommées sont des personnes de grande qualité. Et d'ailleurs, la responsable de la mosquée de centre-ville à Nîmes est membre du CORIF, Madame Mimoun, Dominique Mimoun, qui est membre du Collège interconfessionnel de l'Université populaire des religions, est membre du CORIF. Et à ce titre, elle pourra aussi nous aider un jour à mieux comprendre les travaux du CORIF et voir quelles sont les évolutions de cette instance de dialogue. Voilà ce que je voulais dire. Donc on en est à ce moment du CORIF avec différents items, différentes discussions, et notamment la question de la formation des imams, la question évidemment des carrés dans les cimetières, la question de la viande halal, la question de la sécurité, et oui, la question de la sécurité qui concerne aussi la communauté musulmane, et puis évidemment tout ce qui concerne la question de la compréhension de la laïcité dans une population qui soit ne la connaît pas, soit apprend à la connaître avec un peu de difficulté parce que la confession musulmane est particulièrement sensible à tout ce qui pourrait faire penser que le religieux et le civil, enfin le religieux et le politique, ou le confessionnel et le politique sont complètement séparés. Et là, l'islam a une sensibilité très différente, vous le savez bien, à la fois dans sa pratique et en même temps dans sa doctrine, un petit peu à l'image d'ailleurs du catholicisme à la fin du XIXe siècle, on pourrait même dire avant la Révolution, et à l'image d'un certain protestantisme qui a eu beaucoup de mal aussi, il faut le dire, à accepter cette loi de 1905, même si ses cadres étaient plutôt favorables à cette loi. Et donc, le CORIF, vous voyez, a toute une série de chantiers, des personnes travaillent, des rapports sont fournis, toute une série de préconisations sont faites en interne, et je dirais que il est encore un peu trop tôt pour porter un jugement hein, sur ce CORIF, mais quand même, à mes yeux, les choses avancent discrètement. Peut-être faut-il que les choses avancent discrètement pour que, tout n'étant pas sur la place publique, on puisse régler discrètement les tensions internes. Vous savez combien il est difficile, nous le voyons aujourd'hui au niveau politique, à l'Assemblée nationale, de régler des problèmes sensibles sur la place publique. Les alliances politiques ne se font guère facilement quand la presse est là, quand la télévision est là, quand tout est sur la table et rien ne peut être dit de manière imparfaite, approximative, sans que tout de suite il y ait une réponse cinglante pour dire « mais ça n'est pas ce que je voulais dire », etc. Et donc la discrétion a parfois des avantages et permet de faire avancer des dossiers plus longuement et de manière plus efficace. La situation actuelle est la suivante. Dans une instabilité, il faut bien le dire, gouvernementale, d'une part, dans la difficulté avec laquelle les porteurs de parole, les leaders d'opinion décrivent ce qu'est la laïcité, dans un contexte sécuritaire tendu, avec la crainte des attentats et à juste titre, un antisémitisme qui est en plein essor. Dans la mesure où l'enseignement privé confessionnel musulman a fait l'objet de critiques très fortes des académies et du gouvernement, à tel point que les deux lycées principaux ont été sommés de cesser leurs activités. Je pense au lycée Averroès à Lille et puis au lycée dont j'ai plus le nom à Nice. Enfin bref, dans la mesure où, vous voyez, la constellation n'est pas du tout alignée pour que l'on parle de l'islam de manière apaisée dans ce pays, eh bien, je pense qu'il faut encourager ceux qui sont au travail envers et contre tout, parce que c'est vraiment un moment très difficile à traverser. Et on ne voit pas d'ailleurs que dans les 2, 3 ou 4 années qui viennent, les choses s'apaisent sur ces sujets. Il en faut très peu, la religion étant un sujet hautement inflammable, et en particulier la relation de l'islam à la République en France. Voilà où on en est, donc c'est une période très difficile, et j'attire votre attention sur le fait que l'enseignement du fait religieux tel qu'on essaye de le présenter dans ce genre de rencontre à l'Université populaire des religions permet justement de mettre à distance ces éléments hautement inflammables liés à la doctrine, liés à la conviction, et de favoriser une connaissance du fait religieux comme étant un fait social, culturel, symbolique, qui peut faire lien et qui permet aussi à des familles, des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, d'entrer dans la démarche républicaine de la manière la plus concertée, la plus rationnelle possible, la moins émotionnelle, peut-être la plus égalitaire possible, si on peut parler d'égalité, quand on parle de la population musulmane en France et quand on connaît l'histoire de l'islam en France, qui a quand même traversé des moments d'humiliation, d'oppression extrêmement difficiles. Voilà pour conclure ce propos concernant les institutions religieuses concernant l'islam.